Eh bien, je vais convoquer le Parlement et je lui ordonnerai de me procurer de l'argent.
Le Parlement? Le roi d'Angleterre? Allez, chapeau bas devant les hommes du peuple commun.
Un mendiant?
Oui, un mendiant.
Cromwell, successeur des rois et la République puritaine.
Quel temps fait-il ce matin, colonel?
De ma foi, il fait plutôt froid, Majesté.
J'ai bien fait de mettre une deuxième chemise. Car si j'avais tremblé de froid, mes ennemis auraient dit que c'était de peur. Je n'aurais certes pas voulu m'exposer à un tel reproche. Je ne crains pas la mort, Sir Thomas. Elle n'a rien de redoutable pour moi.
Escorte ! Halte !
Je ne vous ferai pas attendre longtemps, mais je veux seulement vous dire ceci. Ainsi que Dieu m'en est témoin, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont amené ici. Et je prie que ma mort ne leur soit pas imputée à charge. Car je m'efforce jusqu'au dernier instant de maintenir la paix dans mon royaume. Je vais échanger une couronne périssable pour une autre impérissable dans l'éternité et dans la paix céleste.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Ne pleurez pas, Bernard Cotteret, bonjour.
J'ai du mal à retenir mes larmes.
Ainsi mourut le 20 janvier 1649. 1649, nous dit un auditeur. Prononcez correctement, Bernard Cotteret.
Tout à fait.
Charles Ier, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Et il est persuadé, sa mort étant superbe, très bien menée.
Il a réussi sa mort.
D'aller vers le salut. De même, les parlementaires qui l'ont condamné sont persuadés d'aller vers le salut. Accourez, soyez prêts, vous les saints, c'est ainsi qu'il se voit. Jéhovah est parmi vous, il tresse sur vos têtes la couronne du salut. C'est salut contre salut.
Absolument.
Parce que le climat religieux, c'est ce qui est le plus important au XVIIe siècle en Angleterre.
Et cette idée de la grâce aussi, qui est essentielle, tant du côté de Charles Ier que du côté de ses adversaires. Et à chaque fois, ils ont le sentiment, effectivement, que Dieu s'adresse à eux et que Dieu parle au travers de leurs actes.
Alors on peut lire chez Tempus, c'est en collection de poche, vos révolutions en Angleterre, où vous dites que c'est aussi légitimité contre légitimité. La légitimité, le roi la tenait du droit divin, le Parlement la tient de l'élection, enfin l'élection... C'est pas le suffrage universel. Hein.
Le Parlement la tient du peuple. Et de plus en plus, vous savez, c'est un peu une fiction. Mais enfin, quand même...
C'est une fiction parce que vous voulez dire que les élections ne sont pas exactement libres ou exactes dans la représentation.
Les élections sont un phénomène assez secondaire à ce moment-là. C'est pas du tout notre conception de la démocratie qui prévaut à ce moment-là. Et on a le sentiment qu'en réalité, le Parlement en soi représente l'ensemble du pays. Avec ses trois composantes qui sont la monarchie, les lords et les communes. Mais ce sont pas les élections en tant que telles qui sont déterminantes puisque les élections n'ont lieu que faute de mieux.
Les lords vont être abolis par le nouveau régime. Comme va être aboli l'épiscopat, vous nous rappelez ce fort slogan qu'on utilisé dans les dernières, vous le dites en anglais, moi je le dis en français, pas d'évêque, pas de roi. Donc là, on va abolir l'épiscopat.
Oui, no bishop, no king. C'est ce que Jacques Ier, qui était un roi extraordinairement intelligent,
le
avait compris.
Le prédécesseur de Charles.
Voilà, le père de Charles.
Il ne va pas y avoir une république absolue.
Non.
Polybe.
Il faut revenir aux grands anciens.
Aux grands anciens, Polybe, qu'on lisait beaucoup au XVIIe siècle, disait que quand il y avait un changement de régime, c'était juste une modification d'accent entre l'oligarchie, la monarchie et l'aristocratie. Là, il va y avoir un changement d'accentuation, mais pas une république absolue.
Non, absolument. Notre idée de république est totalement étrangère à ces Anglais de la première modernité. Et elle va mettre du temps à s'imposer, y compris aux Américains au XVIIIe siècle.
Mais attendez, le mot « république » quand même. Mais bon, on l'utilisait pour la monarchie aussi, la Respublica, c'était
entendu,
la monarchie.
Bien entendu, Élisabeth Ière, on utilise le mot sous les Tudors, on utilise le mot république à propos de l'Angleterre. C'est une république, c'est-à-dire qu'elle est préoccupée par le salut global du royaume, par le salut de tous. Mais république, c'est la chose publique. Ce n'est pas encore la forme républicaine au sens où nous l'entendons.
D'autant que la personnalisation de la république va être d'emblée, après 1649, très forte. Cromwell avait cumulé, alors qu'en principe ça n'était pas permis, les fonctions de leader parlementaire et de chef de l'armée du Parlement, et le Parlement va lui offrir un palais où il va s'installer à Londres.
Vous savez, on parlera de lui en disant son Altesse Oliver Cromwell, ça montre bien qu'il a quasiment un statut de roi, mais il refuse la couronne. Et là, il y a quelque chose d'extraordinairement intéressant, c'est qu'il refuse la couronne, sans doute pour des raisons qui sont métaphysique, parce qu'il a lu sa Bible et qu'il s'est aperçu que, en réalité, la royauté était une concession faite à la faiblesse humaine et que le véritable seigneur, c'était l'éternel Sabaoth.
Alors, dans sa maison à la campagne, il lisait beaucoup la Bible. Alors, il est issu du milieu rural. Un milieu rural qui, à l'époque, connaît la possibilité de l'ascension, tout aussi bien la possibilité de la descente.
De la descente, et il fait partie d'une famille très intéressante. Parce que l'un de ses ancêtres, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de lien du sang direct, Thomas Cromwell avait été le principal ministre d'Henri VIII au moment de la rupture avec Rome. Donc il y a un grand attachement à la réforme protestante.
Chez Fayard, un livre sans cesse réédité de Bernard Cotteret consacré à Cromwell. Vous avez remarqué, le personnage de Cromwell a beaucoup fasciné au début du 19e siècle, parce qu'on avait l'expérience de la Révolution et des Restaurations. Oui. Et puis plus tard, le personnage de Napoléon va prendre la place à partir du moment où les cendres reviennent en 1840. Mais là, on est en 1827, dans le son qu'on va entendre, qui est extrait de la pièce de Victor Hugo. Alors, on cite sans arrêt la préface de Cromwell, la pièce de Victor Hugo, beaucoup moins la pièce dans son ensemble, que vous trouvez intéressante, parce que...
Que je trouve géniale.
Parce que Hugo présente le mélange que représente la personnalité de Cromwell.
Parce qu'il a perçu en romantique, effectivement, la richesse des facettes de ce personnage.
Donc le grotesque et le grand.
Le sublime.
Le côté madré, marchand de chevaux, et puis le côté, héroïque. Si je puis dire, cavalier, si le mot est possible pour Cromwell, puisque c'est
oui, ce sont des opposants qu'on appelle les cavaliers.
Les cavaliers, c'était des partisans du roi.
Héroïque, en tout cas.
Dites-moi, c'est un leitmotiv dans toutes les émissions que nous consacrons à l'Angleterre en Révolution, il faut parler de l'Irlande. Alors, Cromwell avait...
Il n'a pas été très gentil avec les Irlandais, ça.
Non, il avait applaudi pendant la guerre civile au massacre des Irlandais, tel que l'organisait, par exemple, le comte d'Essex. Voilà ce qu'écrit à ce sujet Victor Hugo.
L'armée du Parlement vient d'emporter d'assaut Armagh la catholique, en Irlande. Et voici la lettre évangélique du chapelain Peters sur cet événement. Aux armes d'Israël, Dieu s'est montré clément. Armagh est prise enfin, par le fer, dans les flammes. Nous avons extirpé vieillards, enfants et femmes. 2000 au moins sont morts. Le sang coule en tout lieu. Et je viens de l'église y rendre grâce à Dieu.
Peter, c'est un grand saint. Faut-il de cette race épargner ceux qui restent? Et pourquoi? Point de grâce aux papistes. Soyons dans ce peuple troublé comme une torche ardente au sein d'un champ de blé.
Alors, Cromwell, d'après Victor Hugo, dit ça avant d'aller lui-même en Irlande, où il mène une expédition de près d'un an, en 1649, une fois débarrassé, le plancher de Charles Ier, suprême bourreau.
Il débarque en Irlande durant l'été 1649, donc moins d'un an après la mort de Charles Ier. Et à ce moment-là, c'est le carnage, c'est épouvantable. Et en particulier, il va s'en prendre à une petite ville qui est au nord de Dublin, qu'on peut se rendre encore à l'heure actuelle, qui s'appelle... Alors je crois qu'on prononce Drogheda, mais ne me demandez pas la prononciation celtique, parce que généralement il y a deux prononciations, une prononciation celtique et une prononciation anglicisée. Alors moi je dis Drogheda, mais je suis pas sûr tout à fait. Enfin ça s'écrit Drogheda, et tous nos auditeurs doivent comprendre. Et là ça a été une scène de tuerie absolument épouvantable. C'est un peu l'Oradour sur surglane, si vous me permettez, de la guerre civile en Irlande.
Dites-moi, à partir de Cromwell, le mouvement de transfert des terres des catholiques va être accentué. 1641, donc au début de la Révolution et de la guerre civile, 59% des terres appartenaient en Irlande aux catholiques. Oui. En 1660, après la fin de Cromwell, 22%.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette idée que les catholiques doivent perdre la terre, parce qu'on a cette idée qui, dans le fond, est illusoire, que le véritable pouvoir, c'est la propriété foncière. Ce qui veut dire que les catholiques n'étaient pas tous réduits à la misère, parce qu'il y a une espèce d'idée un peu misérabiliste qui s'attache à ça, mais les catholiques, quand on se sont retirés de la terre, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés gagner de l'argent. Et donc, il y a une bourgeoisie catholique, ce qu'on a oublié souvent en Irlande, et en particulier, ils vont se retrouver dans un domaine que les Irlandais affectionnent entre tous, encore à l'heure actuelle, les spiritueux. Et en particulier, évidemment, notre bon cognac. Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de marques de cognac, comme Hennessy, par exemple, qui sont effectivement d'origine irlandaise.
Enfin, vous oubliez ceux qui ont été déportés aux Antilles, peut-être se sont-ils reconvertis dans le rhum.
Avec leur... enfin, oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. Ils sont passés du cognac au rhum, en fait.
Je sens que vous alliez dire ça.
Mais oui.
Mais si on en croit un autre opéra d'avant le surgissement sur la scène lyrique de Napoléon, un opéra de l'époque de la monarchie constitutionnelle, 1835, Bellini, Les Puritains. L'opéra vient d'être encore représenté à la Bastille. Si on en croit le cœur final de cet opéra, eh bien Cromwell aurait prononcé une amnistie générale. Sauf pour les catholiques, j'imagine. Alors, c'est chanté ici par le chœur de Glenbourne.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La République puritaine dans les années 1650 en Angleterre avec Bernard Cotteret. Dites-moi, votre père, vous vous appelez Bernard comme lui, mais vous n'êtes pas comme lui, chanteur lyrique
non,
professionnel.
Non, malheureusement.
Il ne devait pas aimer beaucoup Cromwell et ses amis qui ont fermé les théâtres.
Oui, je pense que mon père n'avait pas de sympathie particulière pour Cromwell. À mon avis, il ne se posait pas la question, vous savez, très honnêtement. Dès qu'on sortait de la musique, je crois que ça devenait un peu obscur pour lui.
Mais on écoutait de la musique chez les puritains?
Alors oui, je crois que les puritains, contrairement à ce qu'on imagine, ne menaient pas une vie totalement austère. Vous savez, c'est un peu le lieu commun. Il y a le même lieu commun, je remarque, à propos des catholiques. Vous savez, les catholiques, toujours rigoristes, rigoureux, austères, détestant le plaisir, je demande à voir. Tant du côté des catholiques que du côté des puritains. Je pense que, si vous voulez, c'est une image qui a été quand même excessivement maladroite et qui a été construite en grande partie par les anti-puritains et par les anti-catholiques.
Mais rien que le mot puritain, c'est une invention des anti-puritains. Qu'est-ce que c'est un puritain ?
Un puritain, c'est le mot vient des catholiques. Ce sont les catholiques qui se moquent des protestants et qui disent que ce sont des puritains, c'est-à-dire ils sont obsédés par la pureté.
Et comment ça manifeste-t-il dans la vie quotidienne, notamment le fameux dimanche où les sports et les divertissements excessifs sont interdits?
Alors ça, c'est vrai.
On médite par un incessant acte de conscience sur le fait, est-on digne ou pas, de la grâce que Dieu nous a accordée?
Oui, ça je crois qu'effectivement, le dimanche, ça a été le cas en Angleterre jusqu'à très récemment, mais c'est complètement terminé maintenant. Mais jusqu'aux années 50, vous savez, il y avait une histoire de Fernand Reynaud, Sunday's Closed, et c'est vrai que le dimanche, tout était fermé, parce qu'on devait théoriquement méditer la parole de Dieu, et puis la méditer encore. Donc si vous voulez, il n'y avait pas de place théoriquement, encore une fois, pour les divertissements profanes. Mais tout cela, c'est bien révolu.
Quel dessein Dieu a-t-il sur moi ? Et puisqu'il m'a élu, prédestiné, comment dois-je me comporter ? C'était la question centrale.
C'est une question que je me pose personnellement très souvent, vous savez.
On riait beaucoup chez les puritains ?
Ah, j'espère.
Ils avaient de l'humour et de la distance ?
Oh, complètement, oui.
Ah, vous êtes sûr de ça ?
Ah oui, complètement.
Crois-moi lui-même.
Oui, enfin, Cromwell riait quand il se pinçait, mais enfin, comme on dit.
Donc, il était capable d'ironie sur
il
le
ironisait,
destin,
il sur ironisait le sur les autres.
Qu'il connaissait.
Ah, il non, ironisait sur les autres, oui.
Sur les autres.
Volontiers, oui.
Oui, parce que le dimanche et les autres jours, les puritains attendaient le retour du Christ, mais c'est Cromwell qui occupe le devant de la scène. Alors, on l'a laissé pour fendant les Irlandais, il a aussi battu les Écossais, il a empêché le fils de Charles Ier, le roi exécuté, de revenir, Charles pour II. Le moment, sur la scène. Il veut aussi mener une politique internationale qui soit digne de l'Angleterre. Le Parlement qui est en face de lui, il le trouve un peu...
Alors, si vous voulez, Cromwell,
mou.
C'est d'abord un militaire. Et vous savez, les militaires sont d'abord des hommes d'action, je vous apprendrai rien en disant ça. Et ces gens qui parlementent, qui disputent en permanence, ils finissent tous par se lasser un peu. Et ça, on a un peu ce réflexe-là du militaire face au Pékin, au pluriel, dès qu'il s'agit du Parlement. Donc Cromwell se dit, écoutez, vous m'impatientez, toujours avec vos histoires, d'autant plus les parlementaires, contrairement à ce qu'on imagine, on dit toujours, ils sont dans le beau rôle, les parlementaires, mais ils peuvent être terriblement excessifs, eux aussi, dans leur discours. Ils ont souvent été beaucoup moins modérés que le militaire. Vous savez, on imagine toujours que les militaires sont les pires, ça n'est pas vrai. Je veux dire.
Parce que lui, il était dans l'action.
Et ces parlementaires, ils se lassaient de leurs arguties.
Mais ils sont élus, alors. Je sais que l'élection par le peuple, ça n'a pas d'importance, c'est ouais. Que seul
ils sont élus
l'élection
par Dieu.
Par
ils
Dieu.
Sont élus par Dieu oui.
Mais ils sont élus depuis combien de temps, ces parlementaires-là? Mettons qu'on est en 1653, maintenant. Ils sont élus depuis combien de temps?
Ils sont élus depuis plus de 10 ans.
Ah. C'est ce qu'on appelle le long parlement.
Oui, alors ça devient lassant, la longue.
Et donc, tel Jésus, chassant les marchands du temple, il faut employer le langage de Canaan, le langage de la Bible, Cromwell, le 20 avril 1653, devant les députés.
Monsieur le Président, m'est-il permis de m'adresser à l'Assemblée ?
Certainement, monsieur.
Vous n'êtes depuis le commencement rien de plus qu'un gouvernement provisoire et non les représentants légitimes du peuple. Car ce n'est pas le peuple qui vous a élu. La Chambre a-t-elle une seule fois consulté le peuple qu'elle a pour prétention de représenter ? Non, pas une seule ! Et après 6 ans d'un aussi piètre gouvernement, que voit-on ? Je vous le dis, messieurs, l'inamovibilité d'un Parlement est bien plus pernicieuse que l'inamovibilité d'un roi ! Vous êtes des ivrognes, des intrigants, des scélérats, des proxénètes, des gens sans foi et des ambitieux sans scrupules. Vous n'êtes pas plus capable de diriger sainement les affaires de la nation que vous l'êtes de tenir un bordel. Vous êtes la lie du pays, et une lie qui n'est même pas régulièrement élue. Ce n'est pas un Parlement, je vais mettre fin à cette session. Je déclare ici que le Parlement est dissous. Colonel Harrison.
Oui, général. Soldats, en avant.
La plus d'or.
C'est à peu près le langage exact qu'il a tenu. Alors, c'est le propos du film de Ken Hughes.
Oui, c'est du cinéma quand même. Alors je suis pas sûr de toutes les formules. Je ne les reprendrai pas à mon compte. Ouais. Mais l'esprit, oui, est là. Oui.
Alors il va dissoudre ce Parlement et il va en nommer un. Racontez quand même cet épisode qui est assez significatif, qu'on appelle le Parlement des Saints.
Alors le Parlement des Saints, effectivement, ce sont des hommes qui ont été choisis par le Lord Protector en raison de leur vertu. Or, si vous voulez, la première qualité d'un politique, ce n'est pas nécessairement la vertu. J'espère ne pas vous choquer en disant ça. On aimerait que ce soit la vertu, mais ce qui est très important, c'est l'efficacité. Donc vous avez des hommes très vertueux, priant Dieu, craignant Dieu, comme on le dit à l'époque.
Et ils prient Dieu longtemps pendant leur séance.
Très longtemps, ils n'arrêtent plus. Et si vous voulez, évidemment, ils sont totalement inefficaces.
Qu'est-ce que vous avez dit, Lord Protecteur ?
Oui, le Lord Protector, c'est le titre que Cromwell s'attribue. Il devient dictateur. Et ce que je dis dans mon livre, parce que j'ai une grande sympathie pour Cromwell, en dépit de ce qu'il a fait aux Irlandais, ce que je dis dans mon livre, c'est que c'est un dictateur, mais que c'est un gentleman. Quand même.
Il
arrive à manier à être les deux, à la fois dictateur et gentleman, ce qui n'est pas le cas de tous les dictateurs, vous remarquerez.
Dites-moi, il a fait écrire une constitution. Et ça, c'est un vrai sujet actuel, parce que oui, dans le tohu-bohu que connaît le Royaume-Uni aujourd'hui, et la fragilisation consécutive des institutions, certains disent il nous faudrait une constitution écrite, comme sous Cromwell.
Exactement. Et les Anglais ont gardé un très mauvais souvenir des constitutions écrites, parce qu'elles ont correspondu, dans leur histoire, à une phase dictatoriale. Et donc je crois qu'ils se sont aperçus qu'un texte écrit n'était pas véritablement une garantie, et qu'on pouvait très bien avoir un régime autoritaire avec un texte écrit. Ça a été le cas de l'Union soviétique, je vous le rappelle, qui avait une constitution remarquablement libérale, et on ne peut pas dire que le pays était libéral de son côté.
Ce texte mérite quand même encore d'être inventorié, le texte de la constitution ? L'instrument du gouvernement,
oui,
c'était son nom, rédigé sous Cromwell.
Oui, mais il ne s'agit pas de le reprendre à l'heure actuelle, ce serait une catastrophe. D'abord, qui serait l'autre protecteur ? Boris Johnson ?
Qui est un modèle de tolérance, et qui a le cœur tendre. Alors vous dites, Cromwell a le cœur tendre et c'est un modèle de tolérance.
Oui. Il y a un aspect très touchant chez Cromwell, c'est qu'il enferme les gens, il les met en prison quand même, ses adversaires, mais il va leur parler. Et ça c'est très délicat, vous savez, de sa part, et il va leur parler de Jésus quand ils sont en prison.
C'est quand même assez curieux cette révolution anglaise, parce qu'elle est à la fois très cruelle, on n'a pas parlé de l'essorillage, des langues percées, de la pylorisation, des marques au fer rouge sur le front.
Ça c'était avant la révolution, c'est pas la révolution qui a inventé ça.
Les partisans de Charles Ier l'utilisaient, et puis ça continue, ces supplices continuent d'être utilisés sous Cromwell. Et en même temps, il y a de la politesse et de la douceur. Alors Cromwell va rendre visite aux prisonniers, et Charles Ier, qui, au moment de son exécution, on l'entendait tout à l'heure, dit « Je vais pas vous prendre beaucoup de temps, laissez-moi dire deux, trois mots. »
Il avait de l'humour, écoutez, c'est merveilleux. Un roi comme ça qui va à la mort et qui garde son sang-froid.
Alors, les pouvoirs de Cromwell vont croissant. Voici la définition qu'en donne Olivier Luteau. Alors, Olivier Luteau, à la Sorbonne, a longtemps enseigné.
Je l'ai connu.
La Révolution anglaise.
Je l'ai connu un peu.
Je l'ai connu.
Oui,
mais on va l'entendre.
Nous l'avons connu.
On va l'entendre dans sa prime jeunesse.
Un grand moment.
Olivier accepta de rétablir la seconde chambre, d'ailleurs truffée de fidèles, selon une neuve constitution, l'humble pétition et conseil. Ironique retour des choses. Mais il n'en refusa pas moins, après quelles hésitations, le titre royal. Était-ce sincérité ou précaution à l'égard d'une armée restée républicaine de tradition ? Hugo de lui faire s'écrier « Un sceptre, ôtez cette marotte !» Puis chuchoter « Quand donc serais-je roi ?» En fait, il l'était, gouvernant à Whitehall, par un mélange d'apparat, de piété, d'équité, d'habileté, mettant sa famille au poste clé. Mais il devenait inutile. Bourgeoisie et aristocratie, en voie de réconciliation, n'attendaient que l'occasion de redresser un paravent royal, de rétablir une église garde-fou. Il n'avait plus qu'à mourir, ce qu'il fit.
Alors, n'allons pas trop vite, professeur Luteau. L'idée, Cromwell pourrait devenir roi. Oui. Moi, j'ai une explication. Il se fait proposer la couronne pour pouvoir la refuser.
Oui, je crois. Je crois que vous avez raison. Et en réalité, il refuse la couronne. C'est ce que dit Victor Hugo dans sa très très belle pièce Cromwell. Il refuse la couronne en faisant le fond par piété, parce que pour lui, le titre de roi n'est pas conciliable avec sa foi en l'Éternel, puisque l'Éternel seul est seigneur du peuple, et il ne saurait y avoir de roi. Et vous savez, il y a certains passages dans la Bible qui peuvent être interprétés de cette façon-là. Le roi, la royauté, est une concession faite à la faiblesse du peuple. C'est ce que vous avez dans... Je vais jouer le protestant dans 1 Samuel 8. Donc regardez, les auditeurs, regardez 1 Samuel 8, et vous verrez ce que Luthaud et Cromwell ont pu penser.
Luthaud dit... Il installe les membres de sa famille au pouvoir.
Oui.
Oui.
Oui, oui. Oui. Ça s'est pas bien passé avec son fils.
Parce que le pauvre, il meurt en 58.
Oui. Le fils essaie de lui succéder, mais il a pas du tout le charisme du père. Et le grand problème du fils, c'est qu'il était normal, comme je le dis dans mon livre. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'était pas taillé pour assumer des responsabilités majeures. Et malheureusement, l'Angleterre révolutionnaire et post-révolutionnaire, c'était quand même quelque chose de très très lourd.
On va réinstaller le paravent royal en 1660, c'est la Restauration.
Oui, tout à fait. Et on a ce Charles II qui arrive, qui est quelqu'un d'intelligent d'ailleurs, de même de très très intelligent. Mais qui évidemment n'a pas un charisme comparable. D'ailleurs, il n'en a pas besoin dans le fond.
J'ai pas bien compris si Cromwell avait amnistié ses adversaires, mais Charles II va faire déterrer Cromwell.
Oui, alors là, il y a des scènes qui sont des scènes assez tristes.
Je salue Fabrice Rouel, écoutez là. C'est très affaire sensible, ce qui va suivre.
Oui, on déterre le dictateur. Vous savez, c'est un peu ce qu'on fait maintenant quand on casse les statues.
Attendez, on déterre le dictateur et qu'est-ce qu'on fait du corps?
Ben, on le pend.
Ah, mais c'est pas suffisant.
On le brûle.
Non, on le décapite.
On le décapite. Ah bah oui.
Après l'avoir pendu.
Il faut tout faire. Pendant qu'on y est, il faut pas s'arrêter dans ses bons chemins. Mais ce sont des choses qui nous paraissent assez atroces, dans le fond assez puériles.
Qu'est-ce que pense cette Churchill, puisque vous citiez Boris Johnson? Churchill est le modèle de Boris Johnson, de Cromwell.
Ben je pense que, vous savez, il y a une chose très intéressante, c'est que Cromwell n'a pas du tout aimé le Parlement, comme chacun sait. Il détestait les parlementaires. Et il a sa statue, à l'heure actuelle, en face du Parlement. Et à mon avis, de la part des Britanniques, c'est-à-dire quelque chose de très profond, c'est que ils reprennent l'ensemble, l'intégralité de leur histoire, et qu'ils assument tout cet héritage. Et donc, effectivement, je pense que Churchill assumait, y compris l'héritage qui était celui de Cromwell.
Il y aura encore une glorieuse révolution en 1688 que nous évoquerons demain. Enfin, on retient que la révolution sociale n'a pas eu lieu, leçon numéro 1. Et on retient que la République n'a été qu'un interrègne, leçon numéro 2. Franck Olivard, Audrey Ripouille, Pauline Laverdure, l'équipe de La Marche de l'Histoire. Et chez vous, qu'avez-vous déterré?
Vous connaissez le film Une femme disparaît, le film d'Alfred Hitchcock. Ben c'est ça.